Ma bouteille à l'océan. Chapitre 9. Kamaï est plutôt maigre pour un marquisien. Ou bien il a beaucoup maigri. Ses tatouages ressemblent à un herbier de fleurs flétries, aussi noir que sa barbe épaisse et ses cheveux ras sont gris. Il se redresse fièrement. Sacrée prise. Malgré ses 20 ans de métier sur son chalutier à pêcher le thon, les bonites et les raies à dard, jamais il n'a dû ramener ça dans son filet. Un flic en short et 4 nanas plutôt mignonnes, chacune dans son genre. La bourge, la pète sec, la romantique et l'énergique. Debout dans la cabane au-dessus du port. Un joli bouquet. Et tous, flics comme filles, boivent ses paroles. Alors Kamaï ne se fait pas prier pour répéter ce qu'il a vu. Ou plutôt, entendu. Comme chaque matin, il s'est levé tôt, vers 4 heures, pour relever ses filets. Il suit le même trajet tous les jours. De la montagne au port de Tahaoku, 2 petites heures de marche dans la forêt qu'il adore explorer avec une lampe frontale autour du crâne. À mi-chemin, il doit traverser la route bitumée, à la hauteur de la cabane du maire, avant de couper à pic par le sentier qui descend au port. La cabane est toujours vide, surtout à 7 heures. Il fut un temps où le maire y emmenait sa copine, mais il a arrêté depuis qu'il s'est fait attraper et que ça a failli provoquer une guerre civile, vu que par le jeu des alliances, il n'y a pas plus de 2 familles sur l'île. « Ce serait quand même plus simple, ricane le pêcheur, si on pouvait tromper sa femme avec une cousine. » Bref, depuis, la cabane est quasi abandonnée, pour ne pas dire maudite, et Kamaï a été sacrément surpris la nuit dernière d'y entendre du bruit. Une voix d'homme surtout, et des chuchotements de femme, à peine audibles, puis un cri, celui d'un homme. Puis plus rien. Kamaï en est certain. Il a reconnu la voix. C'est celle de l'écrivain. Celui qui loge chez Tanae. Le type a traîné sur le port de Tahaoku toute une journée avant-hier, comme s'il cherchait à louer un bateau. Il négociait avec d'autres pêcheurs. Pas avec lui. Son rafio est peut-être trop petit. Écrivain ou pas, Kamaï est passé sans ralentir. Pas son genre de se mêler des querelles d'amoureux des popa'a. Il n'allait pas non plus se boucher les oreilles. L'écrivain racontait des trucs tels que « Tu voulais savoir la vérité, maintenant tu la connais ». Ça avait l'air de chauffer. Le genre de dispute qui se termine sur l'oreiller, a-t-il pensé. Sauf que ce matin, tout le monde ne parlait que de ça sur le port. Un crime, commis au soleil redouté, une pensionnaire belge, et l'écrivain qui reste introuvable. Kamaï n'a pas hésité. Il a appelé Tanae. Comme les autres lectrices, comme Yann, j'écoute le récit du pêcheur. On tient tous dans la cabane sans se tasser, mais la chaleur y est suffocante. Le soleil chauffe le toit de tôle façon plancha. On grille dessous comme des éperlans. Une sueur âcre coule dans mon dos, entre mes seins, trempe les graines de mon collier rouge, colle le coton de ma saharienne à mon haut de maillot, dégouline jusqu'à mon short kaki. Mais je ne bouge ni ne dis un mot. Dans ma tête, je remercie Kamaï. Grâce à lui, une part du mystère est révélée aux autres sans que j'aie besoin de parler, sans que j'aie besoin de révéler quoi que ce soit. Plus que cela, je suis conforté dans mon idée. Pierre-Yves s'amuse à jouer avec nos nerfs. Il se promenait sur le port à la recherche d'un bateau. Il a disparu de cette garçonnière tropicale alors qu'il s'y cachait, encore bien vivant, la nuit dernière. Ce salaud se planque quelque part, nous épie et nous force à jouer au jeu dont il nous a énoncé les règles. Écrivez, quoi qu'il arrive, écrivez. Avec autorisation de tuer. Yann écrit lui aussi, de brèves notes, avant de refermer son carnet et de nous demander de nous serrer contre les murs de torchis pour qu'il puisse prendre un maximum de photographies. Je me colle à Marie-Ambre. Elle empeste la sueur elle aussi, mais une sueur rance, refroidie, avec laquelle elle a dû passer la nuit. À croire que ce matin, Amber a eu le temps de se maquiller, mais pas de se laver. Héloïse se colle à Yann, au prétexte de surveiller son téléphone qu'elle lui a à nouveau confié pour qu'il puisse immortaliser l'intérieur sordide de la cabane. Un matelas sale, un évier écaillé, des robinets rouillés, 2 grands draps marquisiens blancs et rouges pour obscurcir les fenêtres, d'autres froissés sur le matelas, des cartons éventrés d'où débordent assiettes, bols, verres, bouteilles, couverts. Près du lit improvisé sont posées 2 valises, PYF y a entassé ses affaires. Des vêtements, des livres, certains des exercices qu'on lui a rendus hier. Je fais confiance à Yann. Il reviendra chercher d'éventuelles traces de cheveux, de doigts, de sang, de sperme. Malgré le mobilier rudimentaire, je n'ai aucun doute sur l'utilisation de la garçonnière. Pierre-Yves François dormait ici, avec une femme. Chacune d'entre nous l'a compris, et toutes s'épient. On se frôle, on se renifle, on se touche presque. Quatre femelles. Laquelle d'entre nous a couché avec le mâle, d'ailleurs pas si dominant, plus mâle bêta que mâle alpha? Non, à la réflexion, pas si bêta, le Pierre-Yves. Yann s'avance pour photographier l'intérieur des placards, demande à Héloïse de se pousser et en profite pour la tripoter. Elle commence à m'énerver, la griffonneuse déprimée, à jouer les ingénues devant le seul homme de la pension. Marie-Ambre, derrière moi, détourne les yeux comme si elle ne voyait rien à leur jeu, l'hypocrite, comme si elle avait de la peine pour la pauvre Farine. Je dois rester concentré, tout observer, pour tout noter ensuite, chaque indice, chaque ressenti, dans ma bouteille à l'océan. Je ne sais pas si elle sera lue par des millions de lecteurs, ou un seul, un juge d'instruction. Les deux, capitaine ? Yann ouvre les tiroirs des rares meubles de la cabane. Laquelle des trois filles avait rendez-vous ici avec Pierre-Yves ? Marie-Ambre ? J'interromps d'un coup le fil de mes pensées. Une hypothèse soudaine vient tout chambouler. Et si cette fille n'était aucune des trois ? Et si cette fille était Martine ? Et s'il ne s'agissait pas d'un rendez-vous amoureux ? Martine quitte le soleil redouté dans la nuit, rejoint PYF dans la cabane. Ils se disputent pour je ne sais quel motif, elle veut l'assommer, elle rate son coup, il crie, mais lui ne la rate pas, et la tue. Il la ramène en silence au soleil redouté, monte une mise en scène, les verres sur la table basse, l'aiguille de dermographe, une dizaine de coups pour qu'on les remarque bien. Cela explique pourquoi Martine n'a pas l'air d'avoir souffert. La supercherie tiendra ce qu'elle tiendra, tant qu'aucun médecin légiste n'est sur place. La première inspection de la scène de crime, sans cadavre cette fois, paraît se terminer. Camaille s'impatiente. On ne va pas attendre la prochaine marée. Marie-Ambre est sortie, Héloïse aussi. Moi, pas tout à fait. Toujours aux aguets. Yann croit être seul. D'un geste rapide, il plonge la main dans le dernier tiroir et en sort une feuille de papier qu'il range dans sa poche. Décidément, ça devient une manie chez lui. Il remarque à ce moment que je ne suis pas sorti. Me fixe un instant et baisse les yeux tel un voleur surpris. Pourquoi ? J'hésite à lui demander. Plus tard, les autres nous attendent dehors. À mon tour, je sors. Je passe devant le rideau sale, celui devant lequel Pierre-Yves et sa belle se sont disputés cette nuit avant de tenter de se réconcilier, puis de s'entretuer. Je ressens d'abord l'impression que quelque chose m'échappe dans cette scène. Quelque chose d'invisible, mais qui pourtant se trouve là, autour de moi, tout près. Je cherche à toute vitesse, tout en quittant la pièce. Je n'aurai peut-être pas l'occasion d'y revenir. Qu'ai-je raté ? Il n'y a plus que Yann qui ferme la marche et, d'un revers de main, fait bouger le tissu marquisien. Soudain, je comprends. Je ne vois ni n'entends rien, simplement, je sens. Un parfum accroché au rideau. L'odeur est à peine perceptible, mais je suis certaine de ne pas me tromper. Ce parfum, c'est 24 faubourgs, d'Hermès. Un parfum qui vaut une petite fortune, autant vous dire qu'on ne le trouve pas à Ivaoa. C'est le parfum que Marie-Ambre portait hier et tous les autres jours depuis qu'elle est arrivée. Mais pas ce matin. Yann l'a-t-il aussi senti ? Se doutait-il de quelque chose ? Est-ce pour cela qu'il a insisté cette fois pour maintenir Maïma à distance ? Parce qu'elle aurait pu reconnaître le parfum de sa mère ? Je repense à la colère de Maïma quand il lui a ordonné de rester à la pension, à sa maman, qui pour une fois ne cède pas. « Tu restes dans la salle, Maïva, avec Poé et Moana. » Et moi qui détourne les yeux en caressant mon collier rouge. « Je suis désolé, Maïma. Ce n'est plus un jeu. Tu n'as que 16 ans. Nous devons te protéger. Quelqu'un parmi nous a tué. Et rien ne dit qu'il ne va pas recommencer. »